Genève. Côté. Nature.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Nature hebdomadaire Genève Côté Nature. Je m'appelle Virginia et c'est avec ma sœur Émilie que je vous présente ce rendez-vous. Bonjour! Cette radio fait partie du travail de sensibilisation que nous mettons en place avec notre association de protection de la nature, NARIES. Grâce à elle, depuis près de 10 ans maintenant, nous œuvrons pour la protection des espèces sauvages et des milieux naturels de manière directe sur le terrain et indirecte en expliquant la situation au public. Nous sommes spécialisés dans les amphibiens sur Genève et principalement sur le crapaud sonneur qui est une espèce en forte diminution dans notre pays. Nous mettons en place des mesures de conservation pour sa protection et nous suivons ces mesures pour voir leur impact. Mais le travail de terrain ne suffit pas à préserver notre environnement et ses habitants. C'est pourquoi nous avons aussi un axe de sensibilisation chez NARIES. Et quoi de mieux qu'une émission de radio pour vous parler de notre planète, de sa beauté, des problèmes qu'elle rencontre et de ce que nous pouvons faire pour l'aider. Il y a plein de gestes, d'habitudes ou de principes qu'on peut adopter pour avoir une vie écolo, mais il est aussi important de prendre le temps de regarder la nature qui nous entoure, de l'admirer, de la connaître et de la comprendre. Parce qu'il nous semble que c'est après cette étape que le commun des mortels se rendra compte qu'il est nécessaire de la protéger. Aujourd'hui, dans Genève Côté Nature, c'est donc un côté vadrouille que nous vous proposons pour partir en balade et découvrir les trésors de biodiversité de notre belle ville de Genève. Nous vous avons déjà emmené du côté de Hermans, de Versoix, de Russin. Aujourd'hui, nous avons eu envie de commencer notre promenade à Thonay, sur la voie verte. C'est une belle idée cette voie verte. On a enfin une piste cyclable et piétonne où on peut respirer un air qui n'est pas rempli de gaz d'échappement. Loin des grands axes de circulation, la voie verte permet de se rendre à vélo, en trottinette, en patin, à roulette ou à pied, de Annemasse jusqu'aux eaux vives. Un itinéraire sécurisé, même si les vélos électriques roulent parfois un peu trop vite, bordé de pierriers, de verdure, où les chants d'oiseaux prennent le dessus sur les bruits du trafic routier. Alors, pour le début de ces vadrouilles aujourd'hui, nous vous proposons d'aller exactement sur la frontière, c'est-à-dire sur le pont qui passe par-dessus le Foron et qui est à côté du chemin du même nom, le chemin du Foron. Pour l'atteindre, il faut partir de la douane de Moelsula, par exemple, et prendre le petit chemin qui monte en direction de la route de Jussy. Alors donc, nous sommes au-dessus du Foron. Le Foron, c'est une rivière qui fait 21,6 km de long et dont la source est à Bons-en-Chablais, sur le côté des Voirons. Alors là-bas, il n'a pas le même nom, il s'appelle Ruisseau de Coudray ou Ruisseau de Chez les Blancs, je ne sais pas si c'est le nom d'une famille peut-être, et il ne prend le nom de Foron qu'à la sortie du lac de Machilly. Par contre, ce qui est drôle, c'est que le mot Foron signifie en fait source profonde, et c'est un nom qu'on retrouve très très souvent pour nommer des cours d'eau en Haute-Savoie, et notamment, contrairement à ce qu'on peut penser, la roche sur Foron ne concerne pas le même Foron qu'on a à Thonay. Et oui, notre Foron à nous passe par les communes françaises de Bons-en-Chablais, Machilly, Saint-Sergue, Juvigny, Cranvesal, Ville-la-Grand, Annemasse, Ambilly et Gaillard. Et sur le territoire suisse, il passe par les communes de Preusinge, Puplinge et Thonay. Le Foron marque évidemment, on le sait bien, la frontière franco-suisse depuis Ville-la-Grand jusque vers Verrier puisqu'il se jette dans l'Arve en amont du pont de Sierne. Et donc à cet endroit-là, il fait la frontière entre la Suisse et la commune de Gaillard. On vous propose donc d'emprunter la voie verte côté suisse en direction de Schönbourg. Alors, outre le fait que c'est un axe privilégié de déplacement pour nous autres humains, c'est aussi une aubaine cette voie verte pour nos amis les animaux, notamment les animaux nocturnes, parce que ça leur donne aussi un moyen de parcourir une certaine distance à l'abri des regards indiscrets. Et oui, quand nous allons dormir, que le soleil est couché et que la voie verte commence à être bien tranquille, c'est le moment pour les petites bêtes de sortir de leurs trous et de vaquer à leurs occupations, sans risque de se faire écraser ou déranger. Ce genre d'axes, qu'on peut appeler des trames vertes, sont très importants pour assurer un brassage d'individus entre deux populations et ainsi être sûr que les populations seront viables génétiquement parlant. Parce que si vous imaginez que des individus peuvent aller de la droite à la gauche ou inversement, ça veut dire que des couples reproducteurs peuvent se former avec deux individus qui ont un code génétique très différent, puisqu'ils viennent de deux populations différentes, et non entre deux individus qui ont un ancêtre commun dans les générations précédentes, ce qui leur donnerait un code génétique avec des similarités.
C'est ce qu'on cherche à faire quand on construit des passages à faune au-dessus ou en dessous d'une route qui a fragmenté le paysage et isolé potentiellement deux groupes d'animaux. Avant la construction de la route, les animaux pouvaient se mélanger, mais depuis la route, ce n'est plus possible. Alors avec la création d'un passage, les deux groupes peuvent à nouveau circuler et se reproduire avec les voisins plutôt qu'avec les cousins et diminuer la consanguinité. Les trames vertes permettent donc de recréer les connexions perdues en aménageant des couloirs biologiques dans lesquels les animaux peuvent à nouveau se déplacer.
On parle de trames vertes parce que c'est un axe qui est souvent boisé et qui permet aux animaux de pouvoir circuler en étant un peu cachés et même de trouver de la nourriture. Ce concept de trame verte a fait son apparition dans les années 1970 aux Pays-Bas, en Lituanie et en Estonie, et s'est ensuite généralisé au reste de l'Europe à la toute fin du XXe siècle. Les trames vertes peuvent prendre la forme d'une haie qui annule l'effet barrière d'une culture. Ils peuvent prendre la forme d'un bout de forêt ou de parc qui maintiennent une connexion en pleine ville, ou ils peuvent même prendre la forme d'un pont sur l'autoroute. Même la renaturation d'une rivière peut agir comme couloir biologique, et c'est ce qui s'est passé dans les Trois Chênes, entre autres avec la renaturation de la SEMA.
Alors, pendant qu'on vous parle, on a évidemment avancé sur cette voie verte. Maintenant, on est au niveau du cirque, qui est sur notre droite, le théâtre Circule, ce grand chapiteau jaune et bleu qui est bien connu dans le quartier. Et peut-être que vous avez pu remarquer sur les bords du chemin des pierriers. Il y a énormément de pierriers qui ont été installés le long de cette voie verte. Et leur but, c'est toujours de recréer des refuges pour différents animaux, et notamment tout ce qui est reptile. Alors là, évidemment, on est en automne, donc c'est un peu moins facile de les observer, quoique si on profite des derniers rayons du soleil, on peut encore voir quelques lézards des murailles qui se cachent à notre passage quand on les effraie et qui vont profiter des pierres chauffées par le soleil pour récupérer de la chaleur et de l'énergie.
Alors cette voie verte, côté France, elle est uniquement en bitume et côté Suisse, elle a une partie pour les piétons qui est un petit peu graveleuse, avec entre la partie piétonne et la partie cycliste une ligne de petites roches, et en fait ces roches proviennent de l'ancien chemin de fer de la Micheline qui passait par là, et c'est une petite note historique que les bâtisseurs ont voulu mettre en réutilisant les roches de l'ancienne voie de chemin de fer. À droite et à gauche, on peut voir passablement d'espèces végétales qui poussent. Alors, elles poussent sur ce qu'on appelle des sols pionniers, donc des sols qui sont nouvellement formés parce que la voie verte ne date pas d'il y a très longtemps. Et il n'y avait absolument rien au départ, à peine quelques graviers. Et il y a certaines plantes, et certains animaux aussi d'ailleurs, mais là on va surtout parler des plantes, il y a certaines plantes qui sont spécialisées dans les milieux qui sont nouvellement créés, qu'on appelle justement des milieux pionniers. Des milieux où il y a peu de nutriments, souvent beaucoup de soleil parce que peu d'ombre. Et ces plantes vont en fait réussir à pousser malgré ces conditions difficiles et vont en mourant créer un nouvel apport de matière organique qui, elle, va pouvoir permettre à de nouvelles plantes qui ont besoin d'un peu plus de nutriments de pousser. Elles vont donner de l'ombre pour d'autres plantes qui ont besoin d'avoir un peu moins de chaleur, etc. C'est ce qu'on appelle la succession végétale. Et parmi ces plantes, quelle que soit la succession dans laquelle on est, on peut trouver les scabieuses. Les scabieuses qui sont ces plantes mauves, violettes, avec des pétales assez plats, qui sont répartis autour de la plante et avec toute une partie d'étamine qui monte et qui donne une forme un peu de boule à cette fleur. Les scabieuses portent leur nom de scabiosus en latin, qui signifiait galeux. Et en fait, c'est parce que cette plante avait pour habitude d'être utilisée dans le traitement de la gale et de la lèpre.
Sur une plante à côté, on a aussi repéré une petite coccinelle. Alors, c'est une des fameuses coccinelles asiatiques qui ne sont pas toujours faciles à reconnaître parce qu'en fait, elles ont une morphologie qui peut être extrêmement variée. Là, celle qu'on vient de voir, elle était plutôt noire avec des petits points orange, mais elle peut aussi être rouge avec des points noirs et le nombre des points est complètement variable. Ça peut aller de 0 à 19. Donc, c'est vraiment très compliqué de la reconnaître. Le problème de la coccinelle asiatique, c'est le même que pour de nombreuses espèces invasives, c'est qu'elle est en général plus grosse et plus vorace que les espèces autochtones. Et c'est le cas de la coccinelle évidemment, qui se nourrit de jusqu'à 100 pucerons par jour, autant vous dire qu'elle rafle les stocks et que les autres coccinelles n'ont plus grand chose à manger.
Donc on a continué un petit peu sur cette voie verte et pour vous situer, on est passé après le cirque par-dessus la route de Jussy, on a traversé et ensuite on a toute une partie de la voie verte qui est un peu plus à l'ombre à cause des bâtiments qui sont sur la gauche et on peut voir à droite encore des pierriers et des jardins privés qui permettent d'avoir encore ce cordon végétalisé dont on parlait avant, qu'on nomme trame verte et grâce auquel les animaux peuvent se déplacer à travers une ville.
Et donc, petit à petit, on arrive vers le nouveau grand immeuble qui s'appelle la Tour Opale. Et en continuant, on arrive derrière la nouvelle gare du Seva à Schönbourg. On va continuer encore pour aller un peu en direction de la ville. Et on va continuer de vous parler des trams parce que, oui, on est sur la voie verte et donc on parle de trame verte. Mais il y a d'autres types de trams comme la trame noire. Alors la trame noire, elle représente des axes qui sont en fait dépourvus de pollution lumineuse pendant la nuit. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il n'y a plus de ténèbres la nuit. Tout est lumineux. Entre les lampadaires, les feux, les enseignes lumineuses, comment voulez-vous qu'un animal nocturne puisse se déplacer correctement ? Alors oui, il peut y avoir des bons côtés aussi, comme l'accumulation de moucherons vers les lampadaires qui attirent les chauves-souris pour faire un petit festin. Mais souvent, le fait d'avoir de la lumière en pleine nuit affecte la survie des animaux, parce qu'ils sont plus visibles et donc plus vulnérables vis-à-vis des prédateurs. Depuis quelques années, certaines communes françaises ont lancé le jour de la nuit, qui a été repris dans le Grand Genève par La Nuit est belle. C'est un événement qui tend à sensibiliser à la pollution lumineuse et qui demande aux communes participantes d'éteindre leur éclairage public pendant une nuit. Alors il y a toujours des gens pour dire que ça augmente le risque d'agression, que les lampadaires sont là pour aider à la circulation, etc. Mais en fait, de 1, il y a eu des études qui ont prouvé que non, les agressions n'étaient pas plus nombreuses, et 2, il y a maintenant des éclairages intelligents qui s'allument quand il y a quelqu'un qui passe et qui s'éteignent après. Donc ce ne sont pas des arguments qui tiennent la route.
C'est en arrivant vers la gare de Seva que nous vous proposons maintenant une petite pause musicale. Alors aujourd'hui, nous allons écouter le duo de Sinsemilia et Trio, Prendre le temps, qui nous dit qu'au lieu de perdre son temps à gagner sa vie, on devrait peut-être mieux prendre un peu de temps pour nous et écouter le vent. Et c'est ce qu'on vous propose dans cette vadrouille.
Radio Cité Genève.
J'aimerais tellement pouvoir vous dire que rien ne va jamais finir, que l'horloge peut se retenir. J'aimerais tellement pouvoir écrire que rien n'arrêtera les rires, que notre vie est une source qui saurait se tarir.
Mais rien ne sert de mentir, j'aimerais au moins vous prévenir que c'est en les vivant qu'on construit les souvenirs, qu'à trop vouloir courir, c'est nos vies que l'on finit par fuir.
Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, et juste quelques instants, laissez-nous prendre le temps. Laissez-vous prendre le temps. Juste écouter le vent, le vent. Perdre sa vie à la gagner et voir défiler les années. Y sommes-nous vraiment condamnés? N'y a-t-il pas d'autre voie que nous pourrions paver? N'y a-t-il pas d'autre choix, d'autres priorités?
Cherchez le plus, pas le meilleur. Ressemble-t-on à une erreur?
C'est nous
poursuivons à l'heure. Est-ce l'abondance de biens qui offre le bonheur?
Laissez-nous prendre le temps. Laissez-vous prendre le temps. Laissons-nous prendre le temps. Juste quelques instants, laissez-nous prendre le temps,
laissez-vous prendre le temps.
peur qu'à la ligne d'arrivée de cette course courue tête baissée, il n'y ait comme médaille que le goût des regrets. Mais je ne connais qu'une urgence,
je connais qu'une urgence,
gagner la quête du sens. Sans attendre demain, là,
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 à portée de nos mains. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps,
laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants.
Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps,
juste écoutez le vent.
C'était la chanson Prendre le temps du groupe Sinsemilla avec Trio. Vous êtes de retour dans Genève côté nature avec un côté vadrouille aujourd'hui qui se passe le long de la voie verte à Schönbourg. Donc nous sommes partis de la frontière au-dessus du Foron sur la commune de Tonnet et on a marché petit à petit et maintenant nous avons dépassé la gare du Seva et nous sommes sur le pont qui passe par-dessus la Sema. Et juste avant ce pont, les créateurs de la voie verte ont disposé un panneau didactique comme il y en a quelques-uns sur cette voie. Celui-ci parle de la traversée de la Sema et on peut y lire tout ce qui a été fait pour renaturer la Sema. Il parle de voies vertes et de voies bleues quand une rivière rencontre une zone qui a été renaturée. Et on vous donne deux exemples de plantes qu'on peut voir sur le trajet de la voie verte, l'iris jaune et la salicaire commune. On vous parle aussi de différents poissons qu'on trouve dans la Sema, le blajon et le spirlin. Et notamment d'un insecte qu'on peut voir aussi à bord d'une telle rivière, le Calopteryx vierge, qui est une sorte de libellule qui a de grandes ailes plutôt colorées bleu foncé, voire noir, avec le corps un peu qui tire sur le vert. Et la femelle et le mâle sont vraiment différents, c'est le mâle qui a les ailes complètement foncées. Alors on parlait avant la pause musicale de la trame verte que peut constituer cette voie verte, donc un couloir biologique qui permet aux animaux de se déplacer à travers une ville. On vient de mentionner la voie bleue qui est le même principe mais quand ça concerne une rivière. On a parlé aussi de la trame noire qui concerne, elle, la pollution lumineuse, donc des axes qui restent sombres pendant la nuit. Toutes ces trames, elles sont donc importantes pour les animaux, pour la nature. Et si vous empruntez cette voie verte quand il y a peu de monde, par exemple très tôt le matin ou tard le soir, voire en pleine nuit, n'hésitez pas à rester vraiment très silencieux, à ouvrir vos yeux et vos oreilles, parce que vous aurez peut-être la chance de croiser un renard, un hérisson ou une fouine peut-être aussi. Alors il faut savoir que le renard, en fait on a l'habitude maintenant de le rencontrer de nuit, mais à la base c'est un carnivore diurne, donc il est actif en journée. Mais à cause de notre société et du fait qu'en journée il y a énormément de passages à droite à gauche et partout sur son territoire, il a adapté ce qu'on appelle sa niche temporelle, donc sa période d'activité, pour la décaler à la nuit et comme ça il est un peu moins dérangé par les humains. Nous continuons notre itinéraire, nous venons de traverser le chemin de la montagne et cette fois nous quittons la voie verte pour tourner à gauche en direction de la rue du tram et nous allons nous diriger vers le parc de la mairie de Schönbourgerie.
Alors nous arrivons au parc de la mairie et on peut entendre juste à côté de nous une citelle qui fait tuit tuit tuit. La citelle est un oiseau dont on parle assez régulièrement parce qu'on la voit souvent. Elle a le dos gris, le ventre orange et elle a une espèce de bandeau noir qui lui traverse l'œil. Mais elle a la particularité de pouvoir descendre les arbres la tête en bas. Donc on la voit souvent complètement retournée à faire des allers-retours sur les troncs. Alors dans ce parc de la mairie de Schönbourgerie, on peut voir énormément d'arbres, des arbres assez impressionnants, majestueux. Alors il y a bien sûr des marronniers qui sont reconnaissables avec leurs feuilles composées, qui a comme 5 ou 6 feuilles, elles ressemblent presque à des mains. Les marronniers sont souvent confondus avec les châtaigniers, non pas parce que leurs feuilles se ressemblent, parce qu'elles sont vraiment complètement différentes, mais parce qu'en fait, en réalité, les marrons chauds qu'on mange en hiver, ce sont des châtaignes. Dans ce parc, on peut aussi voir des platanes, qui ont une feuille qui ressemble à l'érable, donc comme le drapeau du Canada, mais ce sont effectivement des platanes. Ils ont une écorce un peu pâle. Et on peut aussi voir des tilleuls. Alors c'est vrai qu'au printemps, on les sent de loin parce qu'ils ont cette odeur caractéristique des tisanes qu'on fait avec leurs feuilles et leurs fleurs. Alors là maintenant, en automne, c'est vrai qu'on ne les sent plus vraiment. Mais ils sont toujours là et ils sont impressionnants. Et c'est vrai que la légende dit qu'il fallait toujours avoir un tilleul proche d'une mairie ou proche d'une église parce qu'il portait chance aux mariés et leur assurait une longue vie heureuse et prospère.
On se dirige gentiment vers la fin de notre balade. Pour ça, on va traverser donc le parc qui est devant la mairie. On va traverser la route du Vallon pour se diriger dans le parc de Sismondi. Alors, le parc de Sismondi est le long de la route. Il porte le nom de la villa du même nom de la famille Sismondi qui est à côté et dont le parc, en fait, était à l'époque privé et a été transformé en large espace vert en 1974. Ce parc Sismondi est assez connu parce qu'il est très visible depuis la route du Vallon, mais en fait, il cache un autre parc qui est un peu dissimulé. C'est le parc de Stani. En fait, au fond du parc de Sismondi, il y a un mur de pierre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on ne voit que ça et on pense que le parc s'arrête. Mais en fait, la zone de verdure va plus loin puisqu'il y a une arche au milieu de ce mur. Et derrière, on arrive dans le parc de Stani, qui est assez incroyable dès qu'on entre. Parce que dès qu'on passe ce portail dans le mur de pierre, on a un spectacle impressionnant puisqu'on tombe sur un groupe de pins qui sont assez conséquents. Et sur le côté droit, on a aussi un immense séquoia qui est là depuis bien bien longtemps vu sa taille, mais qui a aussi un jeune qui pousse à ses pieds et donc qui fera perdurer l'espèce dans cet endroit.
C'est un endroit où il fait bon se promener et où il fait bon se poser. N'hésitez pas à vous installer par terre pour essayer d'écouter les oiseaux. Ce parc est très pratique pour les familles parce qu'il est circulaire et du coup les enfants sont protégés. Ils ne peuvent pas aller traverser une route. Et de l'autre côté du muret, si on retourne dans le parc de Sismondi, il y a une place de jeu qui vient d'être refaite et qui est vraiment très sympa.
Concernant le parc Stani, il y a plusieurs petits recoins un peu cachés. On peut se balader dans des mini-zones un peu forestières avec des petits chemins qui nous éloignent de la zone du parc et sur lesquels des nichoirs ont été installés. Donc c'est aussi une autre occasion d'aller observer des oiseaux. Et à savoir qu'avant d'être transformé en parc, cette campagne formait une propriété de 34 000 m² sur laquelle se trouvait entre autres la maison de Paola Stani, qui était une dame née en 1885 et qui a vécu là-bas jusqu'en 1969. Quelques années avant sa mort, en 1962, la propriété a été achetée par la commune de Chêne-Bougerie et pendant longtemps, le parc fut fermé au public et il a ensuite été retapé et inauguré en 1986 pour être ouvert au public.
Dernier point d'intérêt de ce parc, c'est l'étang que vous pouvez trouver qui est orné d'une sculpture de grenouilles et on peut y voir à la belle saison des grenouilles, des tritons, des libellules. Donc peut-être que vous pourrez revoir le Caloptérix dont on parlait au-dessus de la SEMA. Et voilà, n'hésitez pas à vous poser à côté pour essayer d'observer toute cette faune sauvage qui vient prendre ses marques dans la ville. Et voilà, nous sommes gentiment à la fin de cette vadrouille. Nous allons vous laisser dans le parc Stani pour vous reposer. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais en attendant, n'oubliez pas que jeudi, nous avons un cours de cosmétique au local de Nariès, donc à la rue Payonnet. Et le thème, c'est au quotidien. Donc vous pourrez pendant quelques heures vous initier à la chimie et fabriquer votre propre déodorant solide, votre dentifrice en poudre et même un tonique visage. Toutes les informations sont sur notre site internet www.naries.ch. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements.
On vous rappelle que toutes les activités que nous organisons sont évidemment sur inscription, mais que si vous souhaitez nous demander une activité à une date qui vous convient à vous pour un groupe d'amis, c'est aussi possible, donc n'hésitez pas à nous contacter dans ce genre de cas.
Et dans tous les cas, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
Au revoir, bonne semaine à tous.
Genève. Côté. Nature.